Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi avec Paul Kenac pour Mauvaise langue ? Ces mauvaises langues sont un journal sur 2 années qui va de 2010 à 2012. Chaque page avance à la vitesse d'un bovin. Écrivez-vous, Paul Kenac, à la toute dernière page. Et en effet, le livre ne contient que 86 poèmes, ce qui est plutôt bref par rapport à des poètes qui en auraient écrit au moins 8 fois plus, afin de tenir le rythme du calendrier sur 2 années. Pour vous, la langue a besoin de temps ?
Oui, bah écoutez, c'est un journal. Donc en fait, ce sous-titre, je l'ai donné après avoir tout terminé. Je me suis posé des questions sur ce que je venais d'écrire et que j'étais toujours en train d'écrire, en fait. Tout est parti d'un poème, comme c'est l'habitude. 4 strophes de 4 vers, des vers libres. Mais quelque chose se déclenche et tout à coup, je me suis jeté une sorte de défi parce que je venais de passer par une période assez sèche et je me suis dit, il faut que j'écrive un poème par jour sans sauter aucun jour, 12 poèmes à la suite pour voir ce qui se passe. Une fois terminés ces poèmes-là, c'était au mois de décembre, je les ai intitulés « 12 jours en décembre ». Puis j'ai pensé à autre chose, et puis tout d'un coup, c'était au printemps, je me suis dit, tiens, et si j'en faisais 12 autres ?
Ce sont des riches heures, alors ?
Oui, en quelque sorte, les riches heures, oui, c'est les travaux, les saisons. J'en avais terminé, puis je me suis dit, bon, ça suffit comme cela. Puis un ami me dit, ah mais non, tu ne peux pas t'arrêter là, il faut faire 12 douzaines. Pour que ce soit un bon conte.
C'est religieux, ça, quasiment.
En quelque sorte, oui. Je me suis récrié en disant « Ah non, non, c'est pas possible », parce que ça demandait, en fait, de faire 12 poèmes à la suite, sans sauter aucun jour. Ça demandait un effort qui m'a paru assez extraordinaire.
Parce que ça prend combien de temps par jour, un poème ?
C'est très variable. Il y a certains qui sortent d'un seul coup, et d'autres... On y passe toute la journée et puis évidemment, on les laisse dormir plusieurs semaines, plusieurs mois et on y reviendra. On voit bien que dans le recueil, j'abandonne progressivement cette forme de 4x4 pour y revenir de temps en temps. C'est parce que tout à coup, cette forme ne générait plus rien. Elle devenait... je ne pouvais plus compter sur elle pour avancer. Et puis j'ai fini par abandonner. Et puis je n'ai pas écrit 12 douzaines, mais j'en ai écrit sans doute 10 douzaines. Et voilà ce qui reste.
86,
oui. Alors, au départ, j'avais des intertitres. J'avais classé par 12 ou par 10, comme cela. Et j'ai fini par demander à 2 amis de me relire, de lire le manuscrit tel qu'il existait à ce moment-là. Et tous les deux qui ne se connaissaient pas m'ont fait la même remarque en me disant que ces intertitres, c'était plutôt un obstacle à la lecture qu'autre chose, qu'il valait mieux supprimer et les laisser vivre l'un après l'autre.
Juste numéroté, désormais.
Juste numéroté, oui. Faire glisser sa plume sur les méchancetés du monde. Il faudrait être fou de ne pas répondre à l'espoir que font naître les choses sans importance, avec obligation réciproque et salut aux entraves de la langue. Fini la position claire, mon odeur n'est pas étrangère à l'odeur des cerfs qui, à la belle saison, opéraient en bras de chemise. Où croyez-vous que je m'absente quand je m'absente, mal reçu et apaisé ?
Le poème est une servitude, Paul Kenac ?
Une servitude, Dans quel sens?
Il est fort ce mot de l'odeur des serres avec un S et un F.
Ah, mais là, je pense plutôt aux lignées paysannes qui m'ont précédé et dont je suis l'héritier.
Et avec l'idée qu'il faut s'y tenir aussi et travailler la langue comme on laboure la terre?
Oui, bien sûr, oui. Il y a une analogie. Et je pense que mes ancêtres aimaient leur langue également. Ils ne savaient pas l'exprimer, certainement. Il y a quelques années, après la mort de mon père, j'ai retrouvé dans ses papiers une lettre d'un grand-oncle à moi, que je n'ai pas connu, puisqu'il est mort en 1905, qu'il adressait à son père, et les deux habitaient la même ferme. Il lui écrit en breton une longue lettre de 5-6 pages au moins, dans laquelle il reproche à son père de son ivrognerie et lui annonce qu'il n'a pas la vocation d'être agriculteur et qu'il veut quitter la terre pour entrer dans un séminaire. Ce qui était pratiquement la seule sortie de secours pour ces générations-là. Ce qui est extraordinaire dans cette lettre, c'est que c'est la tendresse qu'il exprime à l'égard de son père dans un milieu que moi j'ai connu comme étant toujours très dur et où on n'exprime jamais aucun sentiment. Et il finit la lettre en disant à son père, qu'il voit tous les jours par ailleurs, mais au quart, je vous aime. En breton, quand on s'adresse à ses parents, on vous voit toujours. Donc ça m'a posé beaucoup de questions. Je me suis servi de son nom pour un poème, que j'ai publié il y a quelques années. Donc voilà, je suis l'héritier de cette... Il a été le premier écrivain de la famille, je suis le deuxième. La naïveté jouée quand j'accueille à table un plat de pommes de terre salées sur la peau. Ô patate brûlante qu'on lâche dans l'assiette en riant. Autant l'avouer, mais c'est déjà fait, tout m'intéresse dans la patate, depuis le moment de la conception jusqu'à l'arrachage à la houe et le voyage en panier. Toutes nos disputes concernant la poésie ne trouveront pas de résolution. Mais à table, à voix haute, la bouche pleine, nous guettons la vapeur qui monte des patates quand on les ouvre.
Guy Vic, votre voisin, prétendait dans son art poétique « Si je n'écris pas ce matin, je n'en saurai pas davantage. Je ne saurai rien de ce que je peux être. » C'est une sensation, Palkhena, que vous partagez ?
C'est tout l'intérêt de s'asseoir en se disant, je vais écrire, on n'y arrive pas toujours, bien entendu, mais ce qui sort, ce qui vient comme cela, on se met dans une espèce une sorte de disposition d'esprit, ça vient toujours, ça me surprend toujours. Je suis toujours surpris par ce qui sort. Et si je n'étais pas surpris, ça n'aurait pas d'intérêt, bien sûr. Je comprends très bien ce que dit Guy Vic, que on ne sait pas ce qu'on va écrire, mais c'est en le faisant qu'on le découvre.
Et ça peut se faire en marchant aussi, ou c'est toujours assis? Parce que dans ce livre-là, Mauvaise langue, chez Obsidiane, il y a beaucoup de balades,
oui,
et
mais
des cailloux que l'on ramasse avant de les rejeter.
Oui, mais c'est comme dire, dans un poème, je dis par exemple que ce qui est sur la page, je l'ai écrit après. Je suis assis. Et donc, quand je parle des vaches, ce sont des vaches de papier. Ce sont des vaches qui sont sur le papier. Ce ne sont pas des vaches réelles. Bien que les vaches, par ailleurs, soient réelles. Moi, j'ai besoin d'être assis, en tout cas. Je ne peux pas écrire debout, comme Victor Hugo. Je ne peux pas écrire même à l'extérieur. Je ne peux pas du tout le faire. J'ai besoin d'être dans un endroit où je ne vois rien, je ne vois pas grand-chose en tout cas.
Pas de fenêtre ?
Si, il y a une fenêtre, mais qui ne donne sur un mur tout à fait banal et sans intérêt. Et je ne me mets pas du côté de la maison qui regarde vers la vallée et vers les collines, parce que ça me distrait.
Êtes-vous du genre à expédier les affaires courantes en rêve, comme il était dit dans l'un de vos textes précédents, Paul Kenac, donc pour vous consacrer ensuite entièrement en plein jour au poème, ou parfois ça s'inverse ?
Oui, il est beaucoup question du rêve dans ce recueil et dans d'autres, mais plus dans ce recueil ici, c'est vrai. Je suis rentré des États-Unis il y a 6 ans, exactement. 2 premières années, disons, j'ai surtout retravaillé des choses que j'avais déjà écrites aux États-Unis, que j'ai publiées il y a 2 ans. Qu'est-ce que signifie ce retour que je fais après avoir passé la moitié de ma vie en Amérique du Nord, enfin aux États-Unis ? L'Amérique est dans mes rêves, beaucoup. Je suppose que j'y règle non seulement les affaires courantes, mais mes comptes aussi. Je ne sais pas trop ce que j'ai voulu dire quand j'ai écrit les affaires courantes. Mais en tout cas, je sais que parfois, il m'arrive de pleurer en rêve. Ce ne sont pas des vrais pleurs. Je suis sûr qu'il n'y a pas de larmes, mais je ne pleure pas facilement par ailleurs. Mais en rêve, ça m'arrive de pleurer peut-être plus souvent. Ça m'étonne toujours beaucoup.
Armand Robin, le poète breton qui écoutait toutes les langues de la Terre dans sa chambre avec son poste de multidiffusion radiophonique, est un poète qui vous parle, Paul Kenac ?
Bien sûr, oui. C'est un poète que j'ai lu quand j'étais assez jeune. Un des seuls accès que j'avais à la poésie contemporaine ou moderne, c'était la collection Poésie Gallimard, qui avait commencé quelques années avant. Donc il y a un volume consacré à Robin.
Ma vie sans moi.
Ma vie sans moi. Certainement que ça m'a énormément intéressé d'emblée. Ouais. Et tout ce que j'ai pu lire depuis n'a cessé de m'intéresser. Lui, il avait vraiment souffert de la situation linguistique. Il s'est échappé, un peu comme je l'ai fait.
Jusqu'à Paris.
Non, mais il a quand même beaucoup voyagé, d'après ce que j'ai cru comprendre. Enfin, c'est vrai, il s'est installé à Paris. Mais Paris, à l'époque, était aussi loin que l'Amérique du Nord de nos jours. Les transports étaient quand même très lents. Quand il traduit de façon très particulière c'est les poèmes de différentes langues, il y a certaines choses qui sont magnifiques, et d'autres plus contestables. À Saint-Brieuc, une soirée lui était consacrée. La personne qui avait organisé la soirée m'avait demandé de retraduire un fragment de poème en breton qu'il avait traduit de Modus Glandour, ce que j'avais fait, et on avait lu les 2 versions. Moi, je n'avais pas tenté de faire une version littéraire, mais je voulais donner le poème tel qu'il est en breton. Il avait complètement inventé certaines parties. Hein. Vraiment, il s'en allait dans... Mais c'était vraiment très intéressant. Ouais.
France Culture, ça rime à quoi ? Sophie Nolot.
Tu continues de perdre ton temps aux conneries poétiques. C'est ce que vous écrivez, Paul Kenac, dans ses mauvaises langues, chez Obsidian. Sérieusement, l'ancien professeur d'université américaine ne pense pas réellement cela.
Il y a des moments où j'en ai ras le bol de la poésie et des poètes. Je ne sais pas.
De vous-même, alors ?
De moi-même, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai un autre poème où je dis « Abat la poésie ». Ici, il y a de l'autodérision, il y a la dérision. Peut-être que je me sens pris entre 2 feux, quelque part. Je repensais à ce que Ashbery dit d'un poète américain qui s'appelle Jack Spicer. Et il lui dit quelque chose comme, parlant de Spicer, il dit « Il était trop branché pour les ringards, trop ringard pour les branchés ». Et c'est un petit peu l'impression que j'ai moi-même de ma situation, si j'ai une situation. Mais enfin, je le dis avec beaucoup de tendresse aussi.
En 2012, vous avez publié « Abat l'amour » en un seul mot, qui a l'œil évoqué l'Alabama, alors qu'Albrecht, ça déchante un peu plus. C'est parce que les mots, à vos yeux, sont foutus, comme vous l'écrivez ailleurs aussi, quelque part, Paul Kenac, que vous jouez à les tournebouler ainsi.
Oui, alors, « Abat l'amour », oui, je n'ai pas pensé à l'Alabama, mais je n'ai pas vécu dans l'Alabama. Ce n'est pas très loin, mais... « Abat l'amour » est un mot breton qui veut dire, selon le mot qui suit, « parce que » ou « à cause de ». Mais évidemment, quand les apprentis du breton découvrent ce mot, surtout quand on le prononce à la française « abat l'amour », tout le monde rit, évidemment, c'est assez curieux. Ouais. Est-ce que les mots sont foutus? Oui, je pense que non. Les mots ne sont pas foutus, mais j'ai quelquefois le sentiment que oui, que moi-même, je n'arrive pas, que je doute, je doute tout le temps. Ouais. Donc, je ne devrais pas jeter de l'anathème comme cela, parce que je doute tellement de ce que je fais que je devrais comprendre que c'est risqué.
Il faut détruire les formes, c'est aussi ce que vous disiez alors. Mais avec Mauvaise langue, ce recueil-là, le poème revient par quatrains. Vous l'avez dit, la première inspiration est arrivée ainsi. Ensuite, ça s'éclaircit en tercé jusqu'en distique. Mais c'est une forme particulièrement classique, Paul Kanak.
Oui, c'est vrai. Je ne pense pas que j'ai dit qu'il fallait détruire les formes. Il faut que moi...
Si, c'était écrit.
C'était écrit.
Mais bon. C'est un vers, alors c'est dans un contexte.
D'accord.
Dans un poème. De nuit, peut-être.
Oui, peut-être. Oui, oui, moi-même, j'étais surpris de ce qui s'est passé. Parce que cette forme, si c'en est vraiment une, parce qu'elle est quand même très lâche, s'est imposée tout de suite. Et elle s'est imposée dans le sens où... elle entraînait tout le reste. Je veux dire que si je m'écartais de cette forme-là, il ne se passait rien.
Un enjambement en moins, un saut de ligne en plus, et tout d'un coup, ça ne fonctionne plus.
Ça ne fonctionne plus, non. La longueur des vers est très, varie d'un poème à l'autre, quelquefois dans le poème même. Mais je ne sais pas, il y a un rythme qui s'est imposé comme cela, de poème en poème, et qui a permis l'écriture.
Vers 8 heures du matin, à la seule idée que je devrais travailler à ma réputation, je m'enfuis vers le bois où les merles défendent leur territoire. Ce sont les premiers vers du 70e poème de ces mauvaises langues. Qu'est-ce que s'inquiéter de sa réputation pour un poète de nos jours et vouloir marquer son territoire?
J'ai une histoire un peu longue déjà, mais...
Née
en 44, donc j'ai 71 ans. Très jeune... j'ai eu beaucoup de succès comme poète, trop de succès. Et ça m'a fait terriblement peur. Ça a contribué à mon départ aux États-Unis. J'ai voulu me faire oublier. Et j'ai été oublié, effectivement. Alors, je n'étais pas content non plus. Je me moque, là, je travaille à ma réputation, parce que ma réputation, je n'en ai pas de réputation, de toute façon. Alors, c'est une plaisanterie, oui.
Et entre le poète breton qui, à 20 ans, a publié le poème du pays qui a faim, et aujourd'hui, Paul Kanak, celui qui, plus de 50 ans plus tard, publie ses mauvaises langues, alors que et le pays et le poème ont pas mal changé, vous vous situez comment?
Je ne me situe pas. Je suis rentré en Bretagne pour y vivre. Parfois, je me demande pourquoi. Je pense que j'écris mieux que je n'écrivais. Je ne veux pas être le juge de cela, mais je pense que le public que j'avais, je l'ai perdu, bien sûr. Mais aussi, on ne m'a pas pardonné d'être parti, d'avoir déserté, en quelque sorte. Si j'étais allé à Paris, ça aurait été très différent. Mais je ne voulais pas aller à Paris, justement. Au fond, je suis très content d'être marginal. Au fond, c'est ça. Outsider. Peut-être que ce dont je souffre le plus, mais ça, ce n'est pas une souffrance personnelle, c'est la part qui est faite à la poésie aujourd'hui qui fait que les éditeurs commencent à disparaître, les revues, il y en a très peu de revues de nos jours. Si je compare la situation française à l'américaine, aux États-Unis, la poésie n'a jamais eu une place centrale, en quelque sorte, mais grâce à des réseaux des universités, de différentes fondations, etc., la poésie est très, très vivante, d'un bout à l'autre du pays, d'une côte à l'autre. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas ici, ça l'est beaucoup moins. J'ai très envie d'être chien, parce qu'un chien y voit clair et aboie après les défunts. Est-ce une raison d'être triste que nos maîtres atroces nous ont battus à leur jeu? Pour être heureux, mordons-les. S'il existe des êtres supérieurs aux chiens, je veux bien être changé en garde rouge et faire mon autocritique.
Par-delà le repentir politique, qui est aussi en filigrane de ces mauvaises langues, Paul Kenak, vous aviez l'envie d'une bonne dose de provocation, quitte à la retourner contre vous ?
Oui, bien sûr. Surtout que je n'ai jamais été maoïste.
Ni garde rouge.
Ni garde rouge. Mais j'en ai connu un bon nombre. Et la révolution culturelle, à l'époque, m'avait beaucoup intéressé. Je m'étais laissé prendre par moments aux sirènes. Oui, il y a d'autres endroits encore dans le livre où je... Ce n'est pas un regret à proprement parler, mais c'est une... Oui, je retourne la critique contre moi-même. Une autocritique, voilà, c'est exactement cela. Mais pas dans le sens où le faisaient les maoïstes, où c'était une humiliation en public et suivie d'une punition sévère. Donc... Et puis je joue également, pour être heureux, Mordons-les. J'ai enseigné dans la ville de Morlaix, mes débuts comme prof de lycée. Et Morlaix a comme devise « Morlaix ». C'est très, très intelligent, n'est-ce pas ? Dans ce poème, il y a un petit mystère pour moi, parce que quand je parle des maîtres atroces, quand je l'ai écrit, c'est la chose qui est venue comme cela, de façon irrésistible. Et dans le même temps, je me disais... Ce n'est pas moi qui ai écrit cette expression-là. Ça vient de quelque part.
Ce sont les mauvaises langues ?
Peut-être, mais j'aurais bien voulu avoir le secret de ce maître atroce. À qui est-ce que je peux attribuer la vraie paternité de cela ? Peut-être que j'invente, je ne sais pas.
Pas de quartier dans votre poésie aussi. C'est écrit quelque part comme entre mouches et araignées qui s'entre-dévorent.
Oui, quand on voit le monde... tel qu'il est et tel qu'il a probablement toujours été. En même temps, dans ce poème, là, dans un coin de cave où mouches et araignées se disputent le droit d'exister, comme elles se cherchent et s'évitent, pas de quartier, et par-dessus tout, par un sale jour d'été, pas question de s'incliner devant les morts, pas question de s'en tirer par le haut. Oui, il y a quelque chose d'un peu désespéré dans ce poème-là. Puis aussi... un refus de m'incliner devant les morts, ça peut être aussi bien les morts familiaux que les grands ancêtres.
On est loin de la lettre familiale retrouvée du grand-oncle,
oui,
alors.
Oui, il y a les deux postures. Oui. C'est vrai, d'un côté, je me sens très proche de ces gens-là, et en même temps, je ne veux pas être l'otage.
Écrire que le retour au pays est difficile n'est pas difficile. Et là encore, c'est une pirouette, Paul Kenak. Qu'est-ce qui est difficile alors ?
Ah ben si, le retour au pays est difficile.
Mais le vers dit que l'écrire n'est pas difficile.
Oui, c'est un paradoxe, oui, parce que je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à me réinstaller. C'est aussi parce que j'y revenais tous les étés, et que je revenais même assez souvent. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais pu revenir, parce qu'au bout de 35 ans, tout a changé, on ne connaît plus personne.
Mais on écrit pareil, assis à une table ?
Pareil, voilà. J'écris comme j'écrivais quand j'étais dans mes différentes maisons aux États-Unis, et parfois même sur la même chaise, le même fauteuil. Mais écrire n'est pas facile, non. N'est jamais facile.
Je n'entends pas régler tout seul la question du réel. J'entends vivre à l'écart. Et l'on revient à la plume qui est là dès le premier vers de ce recueil, Mauvaise langue, avec aussi cette ritournelle d'enfance au clair de la lune qui s'impose peu à peu, car tout y est, Dieu, auquel vous mettez une majuscule, c'est dit entre parenthèses, Paul Kenak, le feu des mots aussi, mais surtout la solitude, d'autant que ce livre, chez Obsidiane, est le 97e volume de la collection de poésie Les Solitudes.
Oui, je vis seul, c'est un choix que je fais, et que je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais enfin, c'est ma situation. On est sérieux quand on fait du vélo. Mais devant Rosa Mach, je mets pied à terre. attentif au bruit que font les rayons, au frottement des pneus sur le bitume. Sans intention de me réconcilier avec les petites maisons qui remontent la pente, j'avance d'un pas rapide, à coups de pédale dans les mollets. La prose découpée en vers reste de la prose, la poésie et la recherche de l'imperfection. Je m'interroge sur la nécessité de faire entrer des coups de pédale dans les mollets de mon poème. Aux dernières maisons, je ne contemple pas, je regarde, avec les yeux d'un qui se juge durement.
La poésie et la recherche de l'imperfection, c'est écrit entre parenthèses, Paul Kenak. Ça signifie quoi ?
Après l'avoir écrit, je me suis demandé ce que j'avais écrit, évidemment. Je ne recherche pas la perfection. Je pense que une œuvre qui serait parfaite serait probablement morte aussi. C'est comme, je dirais, comme dans le visage de quelqu'un qu'on aime. Il y a un visage parfait me ferait fuir. Mais il y a peut-être quelque chose, une petite deux dents qui se chevauchent légèrement, quelque chose comme ça. Et ça, ça donne de l'intérêt à tout le visage.
Et dans le poème, on fait comment pour qu'il y ait deux dents qui se chevauchent ?
On parle de conneries poétiques.
Donc, oui, c'est un gros mot.
Mais j'étais très frappé, je ne sais pas si je passe du... Ce n'est pas vraiment du coq à l'âne, non. J'étais frappé dans... C'était lisant des critiques, des comptes rendus de lecture, de livres de poésie, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Je distinguais quelque chose qu'on ne voit pas vraiment en France. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai remarqué que le critique, jugeant le recueil, faisait la liste de tout ce qui n'était pas bien. Il aurait voulu reprendre le livre pour le rendre parfait. Et parfois, il s'attaquait à des gens que moi, je trouvais qu'il fallait beaucoup d'audace pour le faire. Et je trouvais qu'au contraire, c'était ces irrégularités, ces aspérités qui faisaient l'intérêt du livre et pas de gommer tout cela.
Et vous avez réellement la dent dure avec votre coup de pédale, Paul Kenak, qu'il soit réel ou figuré ?
Oui, un qui se juge durement, c'est vrai que je n'ai pas d'indulgence pour qui je suis et qui j'ai été, qui je suis encore.
Mauvaise langue de Paul Kenak est publié aux éditions Obsidiane. Sarima Kwa, 24h sur 24 sur franceculture.fr pour réécouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Sarima Kwa, Claude Niort, Jean-Richard Dufour, Henri Leblanc, Patrick Molinier, Sophie Nolot. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.